Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux pour cette nouvelle édition du journal sur Radio Okapi. Je suis Gisèle Cage et voici le principal titre de l'actualité. Djougou en Ituri, la MONUSCO monte au front face à l'escalade de violence alors que les attaques des groupes armés sèment la terreur et provoquent les déplacements massifs. La mission onusienne déploie ses forces à Lopa, Jina et Nizi pour tenter de ramener la sécurité. Tarification bancaire en RDC, l'État veut protéger les consommateurs face à la hausse des plaintes. Le ministre de l'Économie et le défenseur de droits des usagers s'unissent pour contrôler les tarifs bancaires et encadrer le service Mobile Money. Invité du jour, 61 ans de l'INPP, bilan et perspective, Lojan Loutété, directeur technique national intérimaire de l'INPP, revient sur le moment fort de la célébration à Kisangani et le défi de la formation professionnelle en RDC. Ce journal s'ouvre sur la situation toujours préoccupante dans les territoires de Djougou en Ituri, où les violences des groupes armés, notamment Codeco et Zaïre, continuent de provoquer peur et déplacements massifs. Pour faire face à cette insécurité persistante, la MONUSCO renforce sa présence dans les zones les plus touchées, notamment à Lopa, Jina et Nizi, avec pour objectif de rassurer les populations, appuyer les FARDC et favoriser le retour des déplacés. Jeudi dernier, une délégation de la mission onusienne s'est rendu à Iga Barrière et Lopa pour évaluer la situation sur le terrain et réaffirmer son engagement. Reportage signé Isaac Remoyope.
La délégation de la MONUSCO a été accueillie par des habitants encore sous les chocs. À Lopa comme à Iga Barrière, les populations racontent les récentes attaques des groupes armés Codeco, meurtre des civils, pillage d'habitations et de commerces, déplacements massifs vers des localités proches et à Bounia. Le climat reste tendu, les menaces de la milice Codeco persistent. Nous avons constaté une grande psychose au sein de la population. C'est pourquoi la MONUSCO, qui a déjà déployé des casques bleus à Lopa et Limani, veut renforcer la sécurité aux côtés des FARDC, a déclaré Sado Baimouka, officier des affaires civiles de la MONUSCO.
Nous avons pris des mesures ensemble pour renforcer la sécurité et aussi favoriser le retour de la population locale. Au même moment, sensibiliser la communauté sur la mise en œuvre des accords de paix. La MONUSCO a décidé de renforcer sa présence dans la zone pour sécuriser la population civile et décourager l'activisme de groupes armés.
La MONUSCO promet de remonter les doléances des populations locales aux autorités congolaises en vue de renforcer les efforts de stabilisation dans cette partie du territoire de Djougou. Des retours de l'OPA, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le coordonnateur adjoint de la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, patient Kininga, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel à Beni dans la nuit de vendredi à ce samedi. Les circonstances de sa mort demeurent inconnues, suscitant de nombreuses interrogations. Ce drame survient alors que la ville de Beni est déjà marquée par un précédent similaire. Il s'agit du deuxième agent de l'État congolais à perdre la vie dans des conditions mystérieuses en l'espace de peu de temps. Au sud Kivu, un drame s'est produit hier vendredi dans le village Bouchoucha, groupement Kiumba, territoire d'Idjui. Un jeune homme de 25 ans a été tué par la population après avoir été surpris en flagrant délit dans la maison d'un notable local, selon la société civile. Le président de cette structure précise que le jeune homme, une fois maîtrisé, a été lapidé par une foule en colère, condamnant fermement cet acte de vindicte populaire. Amouli Lungungu appelle les habitants à faire confiance à la justice et à remettre les présumés voleurs aux autorités compétentes. Il revient sur ce drame au micro de Ronelli Timbonera.
Pendant qu'il était en train d'être maltraité, il a cité les gens qui étaient avec lui, mais les enquêtes continuent pour savoir les gens qui ont acheté les billets la volée. Ce n'est pas la première fois que ce même garçon vole les billets. Ici, dernièrement, il avait volé encore les billets chez ses papas. On était obligé de les faire arrêter jusqu'à ce qu'il a été déposé au niveau de la prison à Kabar. Nous étions de passage au niveau de là, car le chef de village était en train d'appeler pour que la même personne soit enterrée. mais jusque-là, sa famille a abandonné le corps. Donc, jusqu'à présent, le corps continue toujours à gémir à l'extérieur et abandonné même par la population.
Économie vers une meilleure protection des consommateurs face aux pratiques tarifaires des banques, vérifier la justesse des prix appliqués par les banques commerciales pour le service offert à leurs clients et renforcer la protection des consommateurs. C'est autour de ces préoccupations que se sont réunis hier vendredi le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba et les membres de la communauté de régulateurs et des associations de défense de droits des consommateurs. Les échanges ont porté sur la nécessité de s'approprier pleinement la lutte pour la promotion et la protection de droits des consommateurs congolais dans un contexte marqué par une multiplication de plaintes, notamment dans le secteur bancaire et mobile money. Tous les acteurs présents ont pris l'engagement de mutualiser leurs efforts pour répondre efficacement à ces préoccupations. Jeff Chipamba, président de l'Union des consommateurs du Congo, revient sur le temps fort de cette rencontre au micro de Blaise Makassi.
Nous avons vu le ministre défiler à la tête de ce département. Il n'y en a aucun qui a pris à bras le corps la question du consommateur. Répondre à un point que le chef de l'État a relevé lors de son discours d'investiture, qui est lié à la prolongation du pouvoir d'achat de consommateur. Nous encourageons et rassurez-vous, nous sommes prêts à l'accompagner. C'est une grande première que de voir le ministère de l'Économie d'une part, les associations de consommateurs de l'autre et en face de nous, toutes les autorités régulatrices dans divers secteurs, on s'est compris la Banque centrale. Donc ça veut dire que le ministre veut tant soit peu régler le problème du Congolais lambda où qu'il se trouve. Il a proposé une application qui recevrait le plainte des consommateurs, le transmettre et puis le traiter. Nous avons proposé, comme la Banque centrale était par rapport à la problématique de relevé bancaire, nous avons demandé à la Banque centrale de prendre une instruction dans le sens de donner la structure de prix de relevé bancaire et que le gouvernement lui prête la main forte autant que nous, le consommateur, nous lui prêtons main forte pour qu'on amène à bon port ce combat.
À noter que lors du Conseil des ministres du vendredi 11 juillet, il a été recommandé à la gouverneure de la Banque centrale du Congo d'entrer en contact avec les banques commerciales afin de vérifier la conformité des tarifs appliqués pour les différents services offerts à la clientèle. Pour une gestion plus transparente et efficace des finances publiques en RDC, une nouvelle étape vient d'être franchie. Le ministre des Finances, Doudou Mfouamba, a procédé jeudi dernier au lancement officiel du comité de pilotage du compte unique du pouvoir central, une réforme major visant à centraliser toutes les ressources de l'État à la Banque centrale du Congo soutenue par la Banque mondiale. Cette initiative stratégique vise à mettre fin à la dispersion des fonds publics et à optimiser la gestion de la trésorerie de l'État, marquant ainsi un tournant important vers une gouvernance financière plus rigoureuse. Le ministre des Finances s'est exprimé à ce sujet en présence de plusieurs personnalités dont le vice-gouverneur de la Banque centrale et le représentant résident de la Banque mondiale. On écoute Doudou Mfouamba au micro de Michel Kifindangoy.
La mise en place de ces comités de pilotage répond à une exigence de rationalisation, de transparence et d'efficacité dans la gestion de la trésorerie publique. Elle traduit la volonté du gouvernement de centraliser l'ensemble des ressources du pouvoir central au sein d'un compte unique du Trésor. Cette réforme s'inscrit en outre dans une perspective de renforcement de la confiance des partenaires techniques et financiers, notamment dans le cadre des engagements du programme économique avec le Fonds monétaire international. Il vous souviendra que lors de l'adoption du programme d'action du gouvernement, les premiers piliers de ces programmes s'intitulent « Plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois pour nos populations ». Les premiers axes stratégiques s'intitulent « Stabilité du cadre macroéconomique et l'amélioration de la gouvernance des finances publiques ». Comment améliorer la gouvernance des finances publiques sans s'assurer de la centralisation de l'ensemble des flux financiers, de l'ensemble de la trésorerie du pouvoir central pour faire face aux trois impératifs que nous avons évoqués ci-dessus.
Au maniement, le gouvernement provincial hausse le ton face à la flambée de prix du carburant. Il demande aux opérateurs pétroliers de se conformer strictement à l'arrêté en vigueur qui fixe le prix du litre à 6000 francs congolais. Cette réaction fait suite à la hausse vertigineuse observée depuis vendredi à Kindu. Les autorités provinciales mettent en garde tous les contrevenants et annoncent des mesures de contrôle renforcées. À ce sujet, écoutons Georges Mukunguzi Kandolo, directeur du cabinet du ministre provincial des hydrocarbures au micro de Florence Kiza Lunga.
Le gouvernement est surpris par cette montée qui ne s'explique pas des prix du carburant. Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a signé un arrêté fixant les prix du carburant ici dans la province du Maniema à 6000 francs. Et c'est après avoir pris en compte toutes les charges. Mais l'autorité a été surprise ces jours de constater que les prix du carburant quittent des 6000. L'autorité ayant appris cela a convoqué toutes les parties concernées par cette question. Une réunion a été présidée par lui-même le gouverneur de province et à l'issue de laquelle des mesures drastiques ont été prises. C'est entre autres la prise en compte de cet arrêté, c'est-à-dire l'application du prix à 6000 francs, parce qu'il n'y a aucun facteur qui concourt à la hausse des prix. Que la population se calme. Les produits pétroliers, c'est un produit stratégique et la fixation du prix s'est faite de manière bilatérale. Il faudra que l'opérateur économique arrive à prouver ce qui est à la base de cette hausse des prix. Et lorsque ces éléments ne sont pas présentés, il n'y a pas d'éléments qui justifient cette hausse des prix. Vous allez comprendre que c'est de la pire spéculation. Et ça, l'autorité ne peut pas accepter.
Alerte sanitaire préoccupante. Le choléra continue de se propager à un rythme inquiétant en République démocratique du Congo. Depuis janvier, plus de 38 000 cas suspects et près de 950 décès ont été enregistrés, dépassant déjà le bilan de toute l'année précédente. L'épidémie touche désormais 17 de 26 provinces, y compris des zones habituellement épargnées comme Kinshasa, Maïndombe et l'Équateur, ce qui témoigne de la gravité de la situation face à cette propagation. Inhabituelle, le bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad lança un appel pressant à renforcer la réponse, surtout à l'approche de la saison des pluies prévue entre septembre et décembre qui pourrait aggraver la crise. Jean Gando Kabongo nous en dit plus.
Alors que le gouvernement, les Nations Unies et les organisations humanitaires intensifient leurs interventions sanitaires, indique OCHA, cité par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, d'importants défis subsistent. Les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène restent gravement sous-financés. Afin de freiner la propagation du choléra, une campagne de vaccination est en cours depuis début juillet et vise à atteindre 3 millions de personnes dans 11 zones de santé reparties dans 4 provinces d'ici la fin du mois, voire la fin de la semaine prochaine. Pour y faire face, 750 000 dollars américains supplémentaires ont été alloués par le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies pour soutenir les actions préventives contre le choléra à Kinshasa, la capitale, où on signale une augmentation significative des cas, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Depuis mi-avril, Kinshasa a enregistré plus de 1500 cas suspects, dont 120 décès. Cette nouvelle allocation est la troisième du genre en République démocratique du Congo cette année, après celle accordée au Nord Kivu en mars et au Maniema à la Tchopo Amé. Pour terminer, notons que les humanitaires renseignent qu'ils ont besoin urgemment d'un financement immédiat pour renforcer les réponses sanitaires et combler les lacunes critiques dans les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène.
Santé encore au Kasaï oriental, un pas important dans la lutte contre la maladie du sommeil. Le laboratoire subnational des Dipumba a ouvert ses portes mardi dernier en Mbujimayi. Ce centre est désormais opérationnel pour l'analyse des échantillons des trypanosomiases humaines africaines, une infection parasitaire transmise par la piqûre de la mouche tété. Depuis les débuts de l'année, 12 cas ont été enregistrés dans les zones de santé des Bibanga, Mukumbi et Kalamba, dont un décès. Les précisions avec Esther Ndalafina.
Le laboratoire subnational de Dipumba est le fruit d'un partenariat entre l'Institut médical tropical d'Anvers, le gouvernement congolais à travers l'Institut national de recherche biomédicale INRB et le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. D'après le médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre la trypanosomiase, ce laboratoire attend donc diagnostiquer plus de 200 échantillons par mois provenant des provinces de l'Omami et du Sankoro.
Nous avons besoin d'échantillons. On est à mesure de pouvoir examiner au-delà de 200 échantillons.
Docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'INRB, rassure la population.
Ma joie est d'autant plus grande que l'INRB a été impliqué dans le processus de construction de ce nouveau laboratoire jusqu'à sa complète réalisation. L'INRB a assuré la formation des techniciens de laboratoire au nombre de 3.
Pour Docteur Augustin Kayembe, gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, les diagnostics des trypanosomiases seront désormais rapide.
Ces laboratoires offrira des diagnostics plus rapides et plus précis, permettant une prise en charge plus efficace des patients.
Signalons qu'avant l'ouverture en Mbujimayi de ce laboratoire subnational de Dipumba, les échantillons de trypanosomiase étaient expédiés à l'INRB Kinshasa pour être diagnostiqués. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La science africaine au cœur d'un partenariat stratégique, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique Gilbert Kabanda a ouvert jeudi dernier à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa une conférence axée sur la nécessité de catalyser la science africaine à travers le partenariat scientifique organisé dans le cadre du 25e anniversaire du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique dans le domaine de la science et de la technologie. Cette rencontre de deux jours visée à renforcer la coopération et à stimuler l'innovation sur le continent. Le ministre Gilbert Kabanda a souligné que cette initiative représente une opportunité pour les chercheurs congolais et de s'approprier les leviers du développement socio-économique à travers la science et la technologie. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
C'est dire ici que la catalyse offerte par nos partenaires de l'Union européenne et du Centre national de recherche français sera affecté à la stimulation de la production scientifique et technologique du sommet de nos institutions académiques et scientifiques au plus profond des cases de nos villages, les plus reculés dans nos forêts. C'est là l'un des axes stratégiques de notre politique nouvelle de recherche scientifique et innovation technologique. Dans cette perspective, mon ministère attend capitaliser les résolutions issues de notre rencontre scientifique pour l'élaboration commune d'un cadre stratégique et d'une feuille de route de construction et de mise en œuvre de notre structure catalytique.
Actualité internationale.
Washington dénonce les primes offertes par Hong Kong pour traquer des militants pro-démocratie aux États-Unis. Dans un communiqué publié ce samedi, le secrétaire d'État américain a fermement condamné l'initiative des autorités de Hong Kong qui propose des récompenses à toute personne aidant à l'arrestation des militants pro-démocratie vivant sur le sol américain. Nous ne tolérerons pas les tentatives du gouvernement de Hong Kong d'appliquer les lois sur la sécurité nationale pour intimider ou réduire au silence des citoyens américains ou toute autre personne résidant aux États-Unis, a déclaré Marco Rubio. Il a rappelé que la liberté d'expression et les discours politiques sont des valeurs fondamentales que l'administration Trump continuera à défendre.
L'invité.
Clôture en beauté, c'est vendredi à Kisangani, des activités marquant le 61 ans d'existence de l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-gouverneur de province, du directeur provincial Piero Luango, ainsi que du directeur technique national intérimaire Lojan Loutete. Pour revenir sur les moments forts de cette célébration et dresser le bilan de plus de 6 décennies d'engagement en faveur de la formation professionnelle en RDC, nous recevons aujourd'hui Lojan Loutete, directeur technique national intérimaire de l'INPP. Il est au micro de Jacques Mokonkolé.
Monsieur le directeur technique intérimaire de l'INPP, bonjour.
Bonjour.
On vient de clôturer par le gouverneur de province par intérim le mois dédié à l'INPP. Globalement, que peut-on retenir des 61 ans d'existence de cet établissement public?
Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Globalement, je peux retenir que l'INPP a fait savoir à la face du monde qu'il a déjà plus de 60 ans et qu'il a œuvré pour la République. Il a formé et va continuer à former. Si en moyenne on a formé 100 personnes ou 200 personnes par année, il faut voir ce que ça donne déjà. Donc globalement, je peux dire que nous avons montré à la face du monde que l'INPP fait beaucoup de choses et jusque-là continue encore à faire beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous faites?
L'INPP assure la qualification professionnelle de la population active, à inférer des compétences pour exercer un métier complet et des compétences pour l'amélioration des compétences, par exemple pour les travailleurs des entreprises. Donc l'INPP, dans sa vocation, c'est pour renforcer les capacités des gens qui travaillent. Il y a toujours un écart entre ce que nous faisons et ce que nous devons faire. Et l'INPP est là, c'est pour, du moins, compléter ces informations, compléter cette formation aux travailleurs qui en manquent. Et encore, pour les sans-emploi ou les demandeurs d'emploi, c'est pour donner un métier complet. Par exemple, on forme un mécanicien complet, on forme un commis cuisinier, quelqu'un qui n'avait rien, mais qui a tout un métier à ses mains.
Monsieur le directeur, beaucoup d'activités ont été organisées pendant ce mois de juillet qui a été dédié à l'INPP. C'était pour la visibilité certainement de votre établissement. Pensez-vous, à travers ces activités, avoir lancé un message à la population? Si oui, lequel?
Mais nécessairement. Donc, ce n'est pas une simple visibilité, mais c'est une visibilité approfondie. Parce que les gens peut-être voient seulement l'INPP, mais vous avez vu tout à l'heure comment est-ce qu'on est tenté d'inciter au niveau de l'agroalimentaire, comment est-ce que les mamans, les jeunes filles qui peuvent venir avoir la formation, et comment fabriquer des jus. Au lieu que nous ayons des mendiants en cours de route, en peu de temps, en 4 mois, on sait fabriquer ces jus et on peut les vendre pour assurer la survie également des enfants et pourquoi pas de vous-même également. Donc, c'est un peu ça, cette visibilité-là. Et c'est parce que j'ai parlé un peu de l'agroalimentaire, mais du moins, vous savez que l'INPP est en train de prendre quand même un essor. Par exemple, ici, au niveau de la province d'Achopo, nous sommes ici dans un bâtiment réhabilité. Des mois après demain, nous aurons également un autre bâtiment. C'est également un message pour dire que nous avons des centres pour accueillir un grand nombre de gens et qui n'aient pas peur.
À Kisangani, l'INPP est en train de construire un grand centre moderne. Quel impact cela pourrait-il avoir sur l'offre de formation professionnelle?
L'impact est que quand on forme beaucoup de gens, on assure le développement du pays. Où les former, c'est à l'INPP. Parce que nous aurons des espaces pour accueillir un grand nombre pour former la population. Et quand on forme la population, cela veut dire qu'on assure le développement de la province et de la nation. Regardez là où nous sommes. C'est déjà grand, mais ce que nous construisons également est plus grand que ça. Cela veut dire que nous serons capables d'accueillir un grand nombre pour former. Et quand on forme, c'est pour donner l'intelligence, c'est pour donner la qualification professionnelle et c'est pour donner du travail également aux gens. Le fait de beaucoup construire, nous allons beaucoup former et c'est pour assurer notre développement.
Une dernière question, monsieur le directeur. L'actualité dans le monde aujourd'hui, c'est la protection climatique. Est-ce que cet aspect des choses face à la dégradation de la forêt, est-ce que l'INPP tient compte de cet aspect dans son offre de formation?
Exactement. Il y a un travail que nous faisons, mais nous développons également au niveau de l'INPP. C'est l'arrivée des métiers, que nous parlons des métiers verts. À côté de moi, ici, vous avez vu, on a fabriqué des plateaux sur base de sable et des déchets plastiques. Donc, c'est pour vous dire que l'INPP est en cours de pouvoir suivre ces phénomènes-là. Et je vous dis que nous avons déjà, au niveau de l'INPP, nous avons déjà prévalidé au moins 72 ou 75 filières qui vont dans le sens des métiers verts. Donc c'est pour dire que cet aspect-là, nous prenons également en ligne de compte. Et c'est pour préserver cet aspect des choses.
Monsieur le directeur, merci.
Je vous remercie.
C'était Lojan Lotete, directeur technique national intérimaire de l'INPP. Il revenait avec nous sur le 61 ans d'existence de cette institution publique dédiée à la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Un entretien mené par Jacques Mukonkole depuis Kisangani. Ainsi se referme ce journal sur Radio Okapi, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa, à la coordination juge de Mystère Bilanda et à la présentation Gisèle Cage. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous informer. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie de programmes de Radio Okapi, votre radio de paix et de proximité.